jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de rediffusion estivale consacrée au cerveau, l'organe le plus complexe de l'univers que nous avons tous en tête, enfin je l'espère, nous comme les autres animaux. Mais commençons par le nôtre, par un face-à-face avec notre cerveau humain, devenu en quelques décennies quasiment transparent grâce à l'imagerie et aux avancées des neurosciences qui ont ouvert la boîte noire, notre boîte crânienne. Mais jusqu'où? Jusqu'où est-il possible que le cerveau s'observe lui-même, comme dans un miroir, révélateur de nos pensées les plus intimes et de tout ce que nous sommes, notre esprit, notre corps, nos souvenirs, notre volonté, notre conscience, tout ça dans 1,5 kg de matière blanche et molle, exploré dans toutes ses circonvolutions par le professeur Stanislas Dehaene, l'un de nos plus éminents neuroscientifiques, internationalement reconnu, directeur du centre Neurospin d'imagerie cérébrale, titulaire de la chaire de psychologie cognitive au Collège de France, auteur de nombreux articles et ouvrages qui font référence, Stanislas Dehaene nous avait dévoilé en exclusivité le 5 octobre dernier l'intérieur même de son cerveau, ainsi que son visage bardé d'électrodes, photographié dans son dernier ouvrage « Face à face avec son cerveau ». Un formidable album d'images à résonance magnétique, le cerveau tel que vous ne l'aviez encore jamais vu, autour de la question: comment notre cerveau peut-il s'explorer lui-même? Bienvenue pour une visite auto-guidée dans notre cerveau.
Mon cher cerveau, t'en as pas marre, frère? Sincèrement, tu prends jamais de vacances, tu fais jamais de pause. Tu me fatigues, pour être honnête. T'as cette capacité irritante à toujours tout remettre en question et à t'en poser des dizaines de milliers par jour. Tu as tendance à toujours vouloir creuser, alors que t'as pas de pelle. T'es absurde. Tu penses à n'importe quoi, à n'importe quel moment, et t'as pas de filtre. T'es absurde, mais t'es chou. Tu cherches. Tu cherches sans cesse des réponses quand les autres dorment. Tu cherches les problèmes là où tout va bien, et tu cherches à aller bien quand il y a des problèmes. T'es un éternel insatisfait, et quand t'es satisfait, t'en redemandes. Calme-toi un peu. Rends-toi compte de ton pouvoir, de ton inconscient, de ta mémoire vive, vibrante, cinglante. Tu seras toujours bizarre. On sera toujours le bizarre de quelqu'un.
Mon cerveau se reloue, introspection cérébrale, signé Marion Séclin sur Internet, pour introduire le face-à-face avec son cerveau que vous nous proposez. Professeur Stanislas Dehaene, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager vos découvertes, vos recherches, ce qu'on sait, ce qui reste encore à découvrir sur ce cerveau, le nôtre, le vôtre, notre moi neuronal le plus intime, que vous explorez, Stanislas Dehaene, de toutes les manières possibles. Alors bien sûr par imagerie cérébrale, des images stupéfiantes que vous avez rassemblée dans cet ouvrage qui vient de paraître chez Odile Jacob, Face à face avec son cerveau. Alors on vous découvre, ça c'est en fin de l'ouvrage, bardé de capteurs, cher professeur Stanislas Dehaene. On découvre aussi en début d'ouvrage votre cerveau, oui le vôtre, ce 1,5 kg de matière molle, blanche ou grise, et ses circonvolutions reconstituées en 3D. Votre cerveau de professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale, directeur du centre neurospécifique d'imagerie cérébrale, également président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, chercheur hors pair. Bah, votre cerveau, Stanislas Dehaene, il ressemble un peu au nôtre quand même.
Quand on le regarde comme ça, oui. Et rien d'exceptionnel, effectivement. C'est un des messages de ce livre, Face à face avec son cerveau, c'est que tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, ont grosso modo le même cerveau. C'est le cerveau qui fait de nous des homo sapiens, hommes ou femmes. Il a une organisation particulière que nous commençons à découvrir et qui fait de nous des êtres extrêmement différents des autres primates, mais qui se ressemblent l'un l'autre.
C'est ça, qui se ressemble. Alors c'est le même cerveau et c'est pas le même cerveau. Est-ce que c'est émouvant quand on voit son propre cerveau, puisque vous l'avez vu plusieurs fois hein, déjà.
Bien sûr, moi je passe un peu de mon temps dans des IRM de neurospin, parfois en tout cas. Là, l'image qu'on a mise dans le livre est une image qui est la toute première, quand je suis rentré pour la première fois dans l'IRM à l'époque à Trois-Tesla, à Orsay. Et c'était une machine très impressionnante. Maintenant, les machines sont devenues quand même plus confortables. Enfin, la plupart d'entre elles. À l'époque, c'était un prototype de 5 mètres de long. Il fallait mettre un tuyau en métal autour de sa tête qui servait d'antenne. Et on était un peu claustrophobe. Ça n'est plus le cas maintenant parce qu'on est capable de présenter des films dans l'IRM. On est capable de protéger les gens du bruit beaucoup mieux. Et donc, essentiellement, maintenant, nous avons appris à transformer l'IRM en un labo de psychologie. Mais à l'époque, oui, j'étais ému. J'étais à la fois un peu claustrophobe, un peu anxieux et puis très intrigué de voir cet organe qui finalement est tout moi, tout simplement. C'est le message du livre aussi, c'est nous. Voilà.
Mais oui, c'est nous, c'est complètement fou en même temps. C'est un miroir de nous, mais de tout, de nos pensées, de notre mémoire, de notre corps, de nos actions. Oui. Ce cerveau-là, ce kilo et demi de matière
voilà, tout est là.
Blanche, grise, tout est là.
Tout y est et il ne reste plus qu'à comprendre, si je puis dire, ce qui n'est pas rien, puisque quand on dit tout est là, c'est quand même 86 milliards de neurones, donc 1 million de milliards de connexions. 16 milliards de neurones dans le cortex, il y en a beaucoup dans d'autres noyaux et notamment dans le cervelet. Il y a des neurones aussi dans le reste du corps, bien entendu. Mais donc 16 milliards de neurones dans le cortex qui, quelque part, encryptent avec un cryptogramme qu'on essaye de déchiffrer toutes nos pensées. Il n'y a pas une seule de nos pensées qui ne vienne pas d'une assemblée de neurones dans notre cerveau.
Alors vous ne manquez pas d'humour non plus dans cet ouvrage dans lequel vous rassemblez alors des images sorties d'imagerie, d'IRM, de scanner, mais aussi, parce que c'est quand même le travail toujours des neuroscientifiques, ça a été d'essayer de représenter le cerveau, donc aussi de vieilles gravures, c'est un peu aussi de l'histoire des sciences du cerveau que vous voulez partager. Et vous citez aussi une définition qui m'a beaucoup plu d'un auteur anglais que je ne connaissais pas, Ambrose Bierce, dans son dictionnaire diabolique. Alors, le cerveau non masculin, appareil avec lequel nous pensons que nous pensons.
Voilà.
C'est pas mal comme c'est définition.
Ça nous permet de nous rendre modestes. On essaye de penser le cerveau. Ambrose Bierce, ce dictionnaire du diable est un ouvrage absolument extraordinaire. Il se moque de tout avec énormément d'ironie à l'anglaise. Il y a d'ailleurs une suite à cette citation que je n'ai pas osé mettre dans le livre.
La suite,
c'est donc appareil avec lequel nous pensons que nous pensons. Dans nos sociétés, le cerveau est tellement valorisé que ceux qui en possèdent un sont dispensés des emplois administratifs.
D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, pour être dans l'administration, il n'y a pas besoin de cerveau.
Voilà,
si on
en gros, c'est
ce
ça qu'il voulait dire méchamment. Et comme je suis fonctionnaire moi-même, je n'en parlerai pas.
Non, non, on découvre aussi d'ailleurs le hiéroglyphe égyptien du mot cerveau dans cet ouvrage.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a toute une histoire de la découverte du cerveau que j'ai voulu retracer. C'est un peu mon cabinet de curiosité, ce livre aussi. Donc, 100 images qui nous montrent à quel point on a progressé, bien sûr, au fil des millénaires. Les 10 premières images sont celles de l'histoire, des dissections. Progressivement de plus en plus précise. Il y a Vézal, qui a été un des grands descripteurs, je dirais, de l'anatomie du cerveau, et dont certaines des images dans son livre, on se demande si elles ne sont pas dues au Titien ou à Léonard de Vinci.
Qui aurait aidé à illustrer
cet ouvrage extraordinaire. Et puis ensuite, il y a Ramon y Cajal, qui est un prix Nobel, qui a le premier été capable, avec la coloration argentique d'un de ses collègues, Golgi, de peindre les neurones, littéralement, de les dessiner avec une précision extraordinaire. On a commencé à comprendre que le cerveau était fait de cellules, comme le reste des organes du corps, mais des cellules extraordinaires parce qu'elles sont longues, elles sont grandes, elles ont des branches, elles sont arborescentes, elles ont des dendrites, c'est le terme, ça veut dire arbre. Et puis, avec les technologies modernes, non seulement on voit l'anatomie du cerveau, et dans tout le reste du livre, je montre aussi qu'on voit la fonction du cerveau.
C'est voilà, ça, on voit le cerveau en activité, parce qu'autrefois, on pouvait peindre un cerveau qui était mort.
Hein,
c'est ça. Alors qu'on peut aujourd'hui, c'est quand même ça qui est extraordinaire, voir le cerveau en activité, on peut voir le cerveau penser, agir, on voit s'éclairer finalement dans le cerveau ce qui s'y passe, ou les zones dans lesquelles il se passe quelque chose.
Voilà, alors on a appris à faire, avec différentes méthodes, des images de l'état d'activité, soit d'une région du cerveau, avec la caméra positron ou l'IRM aujourd'hui, soit maintenant avec de nouvelles technologies, et surtout chez l'animal encore, voir chaque neurone en activité. Il existe des organismes, comme des petits poissons transparents, chez lesquels on arrive à voir chacun des neurones, tout l'organisme, voilà, plusieurs centaines de milliers de neurones en activité. Chez les mammifères, c'est un peu plus difficile, mais on peut quand même enregistrer avec des peignes d'électrodes ou avec des techniques optiques, microscopiques. Je montre tout ça dans le livre. Hein. Des images magnifiques où on voit des centaines de neurones et on peut dire « celui-ci s'allume ». précisément lorsque l'animal voit, je ne sais pas, un visage, par exemple. Alors, nous avons des neurones ultra spécialisés.
Dans chaque tâche.
Dans chaque tâche, dans chaque perception. Je montre dans le livre, par exemple, le neurone qui répond à Luke Skywalker. Voilà, on connaît tous Luke Skywalker, oui, parce qu'on a vu la saga de la Guerre des Étoiles. Oui. Voilà. Eh bien, on a trouvé chez une personne un neurone qui répondait juste à Luke Skywalker. Et suffisamment abstrait pour répondre à son visage, à sa personne tout entière, aussi à sa voix et au nom écrit Luke Skywalker.
Et donc ça, c'est un neurone qui réagit.
S'il y en a un, ça veut dire qu'il y en a des milliers. On en a trouvé un, on ne peut pas les enregistrer tous, ça veut dire qu'il y en a des milliers. On ne pense pas aujourd'hui que le codage se fait par un neurone pour un concept, c'est plutôt chaque concept est représenté par une assemblée de neurones, c'est le terme qu'on utilise, une assemblée où les neurones se parlent entre eux et qui se soutiennent entre eux pour dire « c'est Luke Skywalker ». Il y a d'autres assemblées qui sont en train en dessous de peut-être d'essayer de s'exprimer, de dire « non, c'est peut-être un autre Jedi ». Voilà. Donc il y a une sorte de
et
compétition.
Tout ça en même temps, et là, pendant qu'on parle, il se passe tout ça dans notre cerveau.
Ah, voilà, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. J'ai écrit ce livre pour que le lecteur se dise « voilà, toutes ces images, tout ce qu'on me raconte, parce qu'il y a du texte aussi, c'est ce qui se passe en ce moment même dans mon cerveau.
Autour de la question comment explorer son cerveau avec son propre cerveau, parce qu'on va y venir, ça aussi c'est un challenge. On l'a dit, c'est donc vraiment à la fin du XXe siècle que les neuroscientifiques comme vous ont commencé à vraiment ouvrir la boîte noire, à rendre le cerveau transparent quand il est en action. Je propose d'écouter un des pionniers de l'imagerie du cerveau, que vous connaissez bien, auprès de qui je crois que vous vous êtes formé d'ailleurs, et que vous citez dans cet ouvrage. C'est le professeur Richard Frakowiak, professeur émérite de l'University College de Londres et de l'École Polytechnique de Lausanne, ancien directeur du département d'études cognitives à l'ENS. C'est lui qui a fondé le premier département d'études cognitives à Londres et il nous racontait ici même, dans ce studio, son tout premier face-à-face avec un cerveau.
La première fois où je me trouvais dans un hôpital neurologique, je suis descendu dans les bas endroits de l'hôpital où se trouvait le département de radiologie. Avec un malade. Il y avait une machine bizarre qui ressemblait un petit peu à une machine à laver le linge, mais plus grande. Et donc on a mis le malade dedans, et en 10 minutes, sans toucher au malade, sans interférer, sans introduire quoi que ce soit, on a vu son cerveau apparaître sur l'écran. Donc j'ai travaillé avec le deuxième scanner du monde. C'était 1973. Et j'ai appris, à cause de ça, tout ce qu'on pourrait maintenant faire, qu'on n'arrivait pas à faire avant parce que le cerveau se cachait dans un crâne épais et non transparent. Mais voilà, avec cette technologie qui d'ailleurs a valu le prix Nobel 4 ans plus tard, on arrivait à voir le cerveau lésé chez les malades, mais aussi le cerveau normal.
Et arriver à le voir fonctionner, à le voir... Même dynamique aujourd'hui,
alors,
c'est ça.
Alors, pour fonctionner, il a fallu 5 ans plus tard, en rajoutant des traceurs radioactifs. Et là, effectivement, on n'examinait pas seulement l'anatomie, donc la structure du cerveau, mais aussi comment il fonctionnait quand le malade ou le sujet sain faisait des tâches. Donc, c'était très spécifique à la tâche. C'est très important, ça. Et encore 10 ans plus tard... On a laissé les rayons X à côté et on a commencé à utiliser l'IRM qui nous permettait de faire des examens en toute sécurité, 1000 fois à la fois et tous les jours ou tous les ans, comme on voulait. Et en même temps, examinant avec le même équipement la structure et le fonctionnement. Et encore 5-10 ans plus tard, on arrive aussi maintenant à examiner les câbles qui lient les différentes parties du cerveau. Et donc, d'année en année, on examine ce cerveau humain avec plus en plus de fiabilité.
Vous voulez réagir ou compléter les propos du professeur Richard Frakowiak, Stanislas Dehaene, jusqu'où on peut aller maintenant? Ça va très vite. Hein,
Richard Frakowiak a très bien résumé cette saga qui continue. Je suis passé exactement par les mêmes étapes. Je n'ai pas travaillé directement avec lui, mais j'ai connu cette époque héroïque où la seule manière de voir le cerveau en activité, c'était effectivement d'injecter une petite dose de radioactivité avec une durée de vie extrêmement courte, donc il fallait la synthétiser à la cave. On avait un petit cyclotron à la cave. Il y avait une seringue d'eau radioactive qu'il fallait injecter à la personne extrêmement rapidement, parce que la radioactivité décroissait. Donc on courait dans les couloirs avec un diable, avec une seringue protégée par du
pour
plomb.
Pour arriver à voir.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Si c'était seulement il y a 30 ans, ces expériences. Hein. Donc en 30 ans, comment les choses ont changé avec l'IRM maintenant? Vous pouvez faire une image tous les quelques centaines de millisecondes. Vous pouvez faire plusieurs images par seconde. Vous pouvez faire le cerveau entier en une seconde ou en deux secondes et répéter ces images autant de fois que vous voulez. Et donc, ça vous permet de suivre dans le temps la manière dont les choses se passent. Et on le fait encore mieux avec d'autres méthodes qui, contrairement à l'IRM, sont sensibles directement à l'activité des neurones. Les neurones ont une activité électrique. Mmh. Et quand qui dit courant électrique dit aussi champ magnétique. Alors on a un neurospin, une machine qui mesure les champs magnétiques du cerveau de l'extérieur. Ce sont des champs extrêmement faibles, mais on arrive à les détecter. Et du coup, on peut voir là littéralement à la milliseconde maintenant comment se déroule l'activité. Alors ça permet de faire des découvertes assez étonnantes. Et si vous flashez des images, vous savez, au cinéma, ça va assez vite, les images. Si on flash 10 images par seconde, eh bien, toutes ces images rentrent dans le cerveau. Elles sont toutes traitées les unes après les autres, sans être mélangées en réalité. Donc on peut les suivre, il y a une espèce de trajectoire de chaque image dans le cerveau que je montre dans le livre.
C'est que vous pouvez voir quelqu'un penser, pas ses pensées, mais voir qu'il pense et un peu à quoi il, enfin, ce qu'il
Oui, enfin, d'abord dans le principe, c'est le cas. Chacune de nos pensées correspond à un assemblage de neurones. Mais simplement, il faut distinguer des étapes de traitement non conscient et des étapes de traitement conscient. Et c'est quelque chose qui est en cours actuellement. C'est une séparation qui n'est pas encore parfaite.
C'est-à-dire entre nos pensées, celles dont on a conscience, on sait qu'on pense quelque chose, et puis celles qui passent très très vite.
Oui, ou des images comme ça qui sont flashées, mais que vous ne voyez pas consciemment. Le cerveau traite beaucoup plus d'informations, en parallèle d'ailleurs, avec tous ces neurones qui travaillent en même temps. Et nous ne sommes conscients que d'une toute petite fraction de tout ça. Donc on arrive à décoder en fait plus que ce que la personne elle-même connaît de son propre cerveau.
Et oui, parce que tout ça se passe inconsciemment. Exactement. Alors que vous arrivez à le voir. Et ce qu'on n'a pas dit, et qui est très important à dire dans cet ouvrage, dont on a un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, dans ce face-à-face avec son cerveau, c'est la beauté de ces images. Moi, je trouve ça fascinant. C'est extrêmement beau. Juste avant cette émission, on en parlait ensemble, c'est un peu comme des images d'astrophysiciens. Enfin, c'est vraiment extraordinairement beau.
J'ai voulu faire un beau livre, mais un livre qui a du texte aussi. Mais enfin, l'idée, c'était... j'étais un peu jaloux, effectivement, des collègues astrophysiciens qui ont des images, vous savez, sublimes, des galaxies avec des télescopes surpuissants, Hubble, etc. Et je me suis dit, mais en fait, nous avons des instruments tout aussi extraordinaires maintenant.
Pour explorer l'intérieur de notre crâne. Hein, c'est
sublime,
ça.
Voilà. Et le cerveau a cette caractéristique, un peu comme les galaxies, d'ailleurs, de pouvoir être vu à plusieurs échelles. De plus en plus, on est capable de zoomer maintenant à l'intérieur d'une région cérébrale et ce qu'on croyait être une étoile se révèle être une galaxie. On voit les myriades de régions d'abord à l'intérieur d'une petite zone et des colonnes corticales et puis chacune de ces colonnes peut être résolue en neurones et on peut continuer à zoomer. Chaque neurone va recevoir 10 000 synapses ou plus ces synapses sont elles-mêmes composées de molécules élémentaires. Donc j'essayais de montrer la beauté de toutes ces échelles, un peu comme des poupées russes, vous voyez, enchâssées les unes dans les autres. Et puis, la beauté aussi des résultats scientifiques. Quand vous avez les neurones qui répondent à Luke Skywalker, ou à un visage particulier, ou à un lieu, moi, je trouve ces découvertes, effectivement, tout à fait splendides.
Alors, vous-même, vous en avez fait pas mal de découvertes. Vous avez notamment découvert ce qu'on appelle l'effet « oups » du cerveau. Le fait que notre cerveau se rend tout de suite compte qu'il fait une erreur autour de la question comment un cerveau peut-il s'explorer lui-même et se rendre compte de ses erreurs, même quand il n'est pas très doué. Avant de vous laisser nous expliquer comment, je propose d'écouter d'abord Homer Simpson. Bah oui, Homer Simpson.
Bon, alors Homer voudra pas y aller, hein, j'ai qu'à lui demander, il dira non. Et alors, ça sera sa faute.
Je vais pas y aller, alors s'il me demande d'y aller, j'aurai qu'à dire oui.
Attends, voir, t'es sûr que c'est ce qu'il faut dire?
Tais-toi le cerveau, je te tue avec un coton-tige.
Bah, je serais très content de faire cette sortie avec toi.
Bart, je serais enchanté de faire cette sortie avec toi.
Ben voilà, le tout de Homer Simpson et de son fils, ben c'est l'effet oups. C'est notre cerveau, Stanislas Dehaene, je vous ai bien passé un extrait des Simpsons, c'est notre cerveau qui se rend compte quand on fait une erreur.
Voilà, alors ça c'est...
Et même celui d'Homer Simpson se rend compte.
Ben on dirait en tout cas. oui, c'est un effet que je croyais avoir découvert et puis j'ai été scoopé de 2 mois par un autre chercheur. Ah. C'est un peu de frustration aussi, mais c'est un très bon souvenir. Effectivement, on place le sujet dans une situation où il doit cliquer sur des boutons à droite ou à gauche, on le fait répondre un peu vite et vous savez, on se rend compte. On est en train de cliquer sur le mauvais bouton.
Et on s'en rend compte, absolument.
Et alors, au moment même où on est en train de le faire, on essaye de retenir cette action parce qu'on sait que c'est pas ça. Il faudrait cliquer de l'autre côté, mais c'est trop tard. C'est un petit peu comme quand vous envoyez un email, vous savez. Et vous dites, ah non, il fallait pas l'envoyer, j'ai oublié la pièce jointe ou quelque chose comme ça. Alors, ce fameux ah non, qui essaye d'inhiber mais qui n'y arrive pas, on le voit en imagerie cérébrale, ça vient du cortex cingulaire antérieur, qui est ici à l'avant de la tête, c'est une partie du cortex frontal. Et ça se traduit par une très intense onde négative, donc on la mesure très facilement parce qu'elle fait plusieurs microvolts, et ça se mesure en volts, en microvolts, et ça traduit le fait que le cerveau détecte en fait un décalage entre ce qu'il aurait dû faire et ce qu'il est en train de faire. Alors derrière, il y a une morale intéressante, c'est que nous sommes plusieurs dans notre cerveau. On a l'impression d'être une seule personne, mais en réalité, il y a plein de circuits qui essaye de se coordonner et parfois tire à U et à Dia comme ça. Et là, il y a un circuit moteur qui répond trop vite et un autre circuit qui essaie de retenir l'action. Et c'est la comparaison des deux qui permet au même cerveau de dire « je suis en train de faire une erreur ». Alors, il le détecte trop tard, mais il peut encore corriger cette erreur 500 millisecondes plus tard.
500 millisecondes plus tard, on voit que les échelles de temps,
ah oui, c'est complètement bref, fou. Hein, c'est une demi-seconde. Une demi-seconde pour le cerveau, c'est beaucoup
c'est
de temps.
C'est très long, hein, il se passe beaucoup de choses. Et vous avez répondu du coup à une des questions d'un de nos auditeurs, Fidi Ratoul de Madagascar, qui nous demandait justement est-ce que notre cerveau est capable de nous empêcher de faire des bêtises ou est-ce qu'il a besoin de faire des bêtises. Je ne sais pas ce qu'on entend par bêtises. Il demande aussi comment le cerveau retient une information et comment le cerveau distingue le plaisir de la souffrance. Ça, ce sont des grandes questions.
Ce sont des grandes questions. Le plaisir de la souffrance, il y a vraiment des circuits très anciens dans l'évolution en réalité, très conservés, donc à travers les mammifères et même d'autres espèces. Le prix Nobel vient d'être accordé à la détection de récepteurs et la compréhension de récepteurs, notamment pour la sensation de brûlure, qui est une forme de souffrance. Donc nous avons dès la périphérie là, des systèmes spécialisés pour détecter des situations où le corps est en danger. Et en fait, toutes nos émotions correspondent à un calcul de notre cerveau. C'est très important de ne pas opposer émotion et cognition.
Voilà. C'est ça.
Les émotions, c'est un calcul d'un robot qui est notre corps et qui dit « attention, là, il y a un signal particulier auquel il faut prêter une attention immédiate dans le cas de la peur ou dans le cas de la douleur. » D'ailleurs, on le sait bien pour le cas de la brûlure. On a retiré sa main avant même d'être conscient qu'on est en train de se brûler. Ce sont des circuits extrêmement rapides, extrêmement efficaces, sélectionnés parce qu'ils ont une valeur de survie absolument essentielle et donc très spécialisée. Donc, la question de la distinction entre le plaisir et la souffrance...
Elle est inscrite dans notre...
On n'a pas besoin de l'apprendre, elle est vraiment inscrite très profondément dans l'anatomie innée de notre cerveau.
Autour de la question comment un cerveau peut-il s'explorer lui-même, à les réponses en musique tout de suite dans l'IRM de Charlotte Gainsbourg sur RFI.
Looking through a glass onion.
L'IRM de Charlotte Gainsbourg sur RFI. Merci pour ce choix musical de circonstance, professeur Stanislas Dehaene, pour ce face-à-face avec son cerveau, titre de l'ouvrage génial et illustré, évidemment, que vous venez de publier chez Odile Jacob. Autour de la question, comment le cerveau peut-il s'explorer lui-même? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans ce reportage sur le plus puissant aimant à IRM au monde, celui du projet ISE, dans le centre Neurospin d'imagerie médicale que vous dirigez à Saclay. Stanislas Dehaene, notre reporter Manon Mella avait rencontré Lionel Quétier, le chef du projet ISE, et Cécile Lerman, ingénieur et pilote opérationnel de cet aimant du futur. Il venait, c'était en 2019, d'atteindre le champ magnétique de 9,51 Tesla. Vous allez nous dire où il en est aujourd'hui, juste après le plus puissant aimant IRM au monde destiné à l'imagerie médicale.
Nous sommes dans l'arche qui héberge l'aimant ISULT. Donc c'est un aimant d'IRM qui fera 11,7 Tesla, c'est-à-dire en gros 220 000 fois le champ magnétique terrestre, et qui sera l'IRM le plus puissant au monde. C'est un gros cylindre, 5 mètres de longueur, 5 mètres de diamètre extérieur, 132 tonnes, et donc un trou central qui fait un tout petit peu moins d'un mètre, par lequel on insérera le patient pour son examen.
Cet aimant va nous permettre d'explorer de manière plus fine donc l'anatomie et le fonctionnement du cerveau. Donc, il faut se représenter que les IRM actuellement disponibles en hôpital permettent d'obtenir une résolution spatiale, donc de voir des détails de l'ordre de la taille d'un grain de riz, alors qu'avec cet IRM, nous allons nous approcher d'une résolution donc de l'épaisseur de 1 ou 2 cheveux. Dans le cadre d'abord d'explorer le fonctionnement du cerveau sain, puisque ça c'est déjà très intéressant, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissons pas encore. Et au niveau des pathologies, donc ça va nous permettre également d'explorer les processus pathologiques de manière plus fine, en particulier de mieux distinguer et analyser les plaques, par exemple dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, et également dans la maladie de Parkinson, de revoir plus des détails de structure, de l'altération des noyaux cérébraux. Nous, ce qu'on espère faire avec un IRM comme le 11,7 Tesla, c'est de détecter de manière précoce les prémices de ces altérations afin de pouvoir orienter les personnes, par exemple, vers des traitements préventifs.
Stanislas Dehaene, jusqu'où et où en est cet aimant, ce projet ISE? Où en est-il maintenant dans votre neurospin?
Le projet ISOL, c'est 15 ans de travail. C'est une collaboration entre les neuroscientifiques de Neurospin, les spécialistes de l'IRM et puis les spécialistes du CEA qui conçoivent des détecteurs. C'est la même équipe de l'IRFU qui a conçu qui continue de concevoir des aimants pour le CERN. Vous voyez, donc la très haute technologie au service du cerveau. Alors, où en est cet aimant? Ça y est. Il est en champ, il est monté, il monte d'ailleurs, c'est une machine extraordinaire parce qu'il est capable de monter et de descendre à ce champ magnétique incroyablement élevé de 11,7
Tesla.
En quelques heures, on peut l'allumer et l'éteindre, contrairement à d'autres IRM. Donc il y est. J'ai à peine le droit de le dire parce qu'on
mais
fait une annonce jeudi.
C'est un peu
à scoop, mais disons que vous allez voir de belles images, de très belles images. C'est non seulement un aimant, ce que c'était déjà dans votre reportage il y a quelques temps, mais c'est maintenant un imageur, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur de cet aimant pour sélectionner un plan de coupe, créer une image, recevoir les signaux de résonance et prochainement pouvoir stimuler une personne. Alors d'abord, des images sont faites post-mortem et puis chez l'animal, mais ensuite nous obtiendrons la permission de le faire chez l'homme également.
Pour pouvoir stimuler dans le cas de pathologie, dans le cas de
oui, ou
de
simplement,
déficience
ou... Il y a vraiment ce double objectif qui est présent à Neurospin. D'abord comprendre et ensuite pouvoir agir, créer des technologies pour la médecine. Mais l'objectif de comprendre est tout aussi important, notamment dans le cas, on a mentionné, dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une démence, qu'est-ce qui est perdu exactement dans le cerveau? Des réseaux sémantiques, mais comment on code le sens dans le cerveau?
Comment on code le sens? Question abyssale.
On ne sait pas, je dois dire. C'est une des choses que je pense que je fais dans le livre, c'est aussi d'expliquer tout ce qu'on ne sait pas.
C'est ça.
Je
ne
voudrais pas
ça.
Faire croire aux auditeurs que ça y est, on a compris le cerveau. Non, pas du tout. Et notamment le cerveau humain, il y a des pathologies particulières à l'espèce humaine qui sont encore difficiles à comprendre parce qu'elles concernent des fonctions cognitives qui sont absolument singulières, qui n'existent pas chez d'autres espèces. Et donc, on ne peut les explorer que dans notre cerveau humain. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des machines d'IRM, parce que ce sont des méthodes non-invasives qui permettent d'explorer le cerveau vivant sans aucune injection, sans grande difficulté. En réalité, une fois que la machine est en place, tout devient assez facile. Et comme il a été dit, avec cette machine, on va pouvoir zoomer. On va aller beaucoup plus près du neurone. On ne sera pas encore en train de voir des neurones individuels, mais on sera, on l'espère, à l'échelle de 500 microns, c'est-à-dire des populations de neurones, quelques centaines, quelques milliers de neurones.
Vraiment minuscule. Et c'est vrai qu'à regarder cet ouvrage, on a parlé de la beauté. C'est vraiment, c'est du merveilleux. Il y a aussi de l'humilité, parce qu'effectivement, on se rend compte de l'océan de notre ignorance. Le cerveau, c'est aussi, alors on l'a dit, c'est nous, hein, c'est toute notre personnalité, ce sont nos souvenirs, notre mémoire. Un de nos auditeurs à Kinshasa, ça, Joey Kabuto, il nous dit, mais au fond, combien de temps le cerveau met pour oublier un événement traumatisant, pour le relativiser? Je crois qu'il pense qu'il a mourir sa mère. Et il, voilà. Est-ce qu'on en sait plus, par exemple, sur ce genre de questions?
C'est un grand sujet de recherche. Je ne travaille pas personnellement dessus, mais il y a beaucoup de recherches, y compris chez l'animal. Il est vrai qu'il y a des réseaux dans notre cerveau qui sont capables d'apprendre en un essai et qui ne vont jamais oublier. Si l'événement est particulièrement stressant ou traumatisant, une fois suffit et vous avez un syndrome post-traumatique qui peut être causé par un épisode extrêmement douloureux, un soldat qui revient de la guerre d'Irak, par exemple. Alors, la question est vraiment très concrète. Est-ce qu'on peut effacer ces souvenirs? Chez l'animal, on arrive à le faire.
On commence
à effacer des souvenirs sélectivement. On se sert du fait qu'en les réactivant, ils deviennent fragiles. Ça, c'est un point intéressant.
Quand on revit quelque chose,
on prend le risque aussi de le perturber, de l'effacer, de créer d'ailleurs des faux souvenirs, ce qui est un autre problème très important. Il y a des gens qui sont persuadés d'avoir vécu des choses qui n'ont en réalité jamais eu lieu et qui parfois font des procès pour des choses qui n'ont pas eu lieu. C'est une chose très compliquée. Alors, il y a des pistes de recherche dont je parle dans le livre autour notamment d'agents pharmacologiques qui pourraient rouvrir la plasticité. Parce que la plasticité se ferme dans le cerveau devient immobile avec l'âge et donc ces réseaux deviennent permanents en quelque sorte. Et il y a des recherches extrêmement intéressantes autour de molécules qui, à mon sens, devraient être plus explorées sur le plan de la recherche, comme le MDMA, c'est-à-dire le principe de l'ecstasy, ou des psychédéliques. Et il y a des recherches extrêmement intéressantes qui suggèrent qu'on peut...
Qui permettent de rouvrir un peu, enfin de replastiquer.
Alors ça s'accompagne toujours d'une psychothérapie aussi, pour faire revivre ces souvenirs, les réactiver, et la combinaison des deux a l'air d'être très efficace dans des recherches cliniques qui sont très actuelles pour corriger le trouble des syndromes post-traumatiques.
On se dit que c'est passionnant, on se dit aussi, on y viendra, qu'il faut qu'il y ait de la neuroéthique là-dedans, parce que évidemment, c'est une boîte de Pandore qui peut s'ouvrir.
Mais ça, je peux vous rassurer, ces recherches sont extraordinairement encadrées sur le plan éthique. Il n'y a pas une seule de ces recherches qui ne fasse pas l'objet d'un avis du comité d'éthique qui vérifie tout, bien entendu, la manière dont sont traitées les personnes, mais aussi la manière dont sont stockées les données et la manière dont les données sont anonymisées, de sorte qu'on ne puisse pas savoir de qui il s'agit. Enfin, c'est vraiment, je pense, là, on a en France en particulier des conditions éthiques tout à fait irréprochables.
Autour de la question, comment le cerveau peut-il s'explorer lui-même et jusqu'où pouvons-nous explorer notre niveau de conscience qui est essentiel, par exemple, dans les cas de patients qui sont mettre dans le coma ou ceux atteints de l'Octin syndrome? Emmuré vivant, paralysé, mais avec un cerveau en parfait état de marche. Je vous propose d'écouter, c'est vous qui nous l'avez proposé, Stanislas Delane, un extrait du film tiré de la vraie et terrible histoire de Jean-Dominique Bobby, ancien rédacteur en chef de Elle, victime d'une attaque cérébrale, qui s'est retrouvé totalement paralysé, mais avec un cerveau en parfait état de marche. Son livre et le film qui en a été tiré s'intitule Le scaphandre et le papillon, dans lequel il est interprété par Mathieu Amalric.
Bonjour.
Je suis où, au paradis?
Je m'appelle Henriette. Et moi, Marie. Je sais que vous pouvez cligner des yeux. Alors vous allez cligner une fois pour oui, deux fois pour non.
C'est bien ma veine, j'ai deux créatures au pied de mon lit et je ne peux rien faire.
Est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit?
Où ça? Durand, orthophoniste.
J'ai écrit Durand. Très bien, monsieur Bobby.
Madame
bien.
Ou mademoiselle?
Je suis votre physiothérapeute. Ma priorité, c'est de vous apprendre à avaler. Donc nous allons travailler la langue et les lèvres.
Ça a l'air sympa.
Moi, je suis orthophoniste. Alors, on va essayer de trouver un moyen de communiquer avant que vous ne retrouviez la parole.
Ouais.
Vous savez, votre cas est très rare.
On m'a dit, oui.
Nous avons beaucoup de travail à faire. Alors, ne perdons pas de temps. Je vais vous poser plus de questions. D'accord? Rappelez-vous, un battement de cils pour oui, deux pour non. Suis-je un homme? Suis-je une femme? Est-ce qu'il est minuit?
C'est quoi ces questions?
Sommes-nous à Paris?
C'est pas vrai.
Derrière
le rideau de toile mitée, une clarté laiteuse annonce l'approche du petit matin. J'ai mal au talon, la tête comme une enclume, et une sorte de scaphandre qui m'enserre tout le corps. Ma tâche consiste maintenant à rédiger les carnets de voyage immobiles d'un naufragé échoué sur les rives de la solitude.
Jean-Dominique Bobby, le scaphandre et le papillon, avoir un cerveau en état de marche absolue, dans un corps qui ne réagit plus du tout, de l'important de pouvoir mesurer le niveau de conscience.
Ouais, on est ému parce que c'est quand même c'est une situation absolument dramatique, atroce, hein, et pas si rare que ça. Et je peux dire, et encore, parce que dans le cas de Jean-Dominique Bobby, ça a été détecté, parce qu'il était capable de cligner de la paupière, mais il y a un certain nombre de patients qui ne sont plus capables de bouger du tout, et dont on pense pourtant qu'ils sont encore conscients. Alors l'imagerie cérébrale a son rôle à jouer, parce qu'elle permet de voir directement dans le cerveau, et si on a des indices ou des marqueurs, on appelle ça des signatures de la conscience, ben, on peut détecter qu'en fait, il y a encore quelqu'un à l'intérieur, si je puis dire. Mais ça pose tout le problème, évidemment, de la nature de la conscience. Pendant longtemps, on a pensé que la conscience était un problème tout à fait inaccessible, parce que c'est un état subjectif. Ouais, oui, puis on a quand même cette idée dualiste qui vraiment reste très présent dans la société, que
le corps et l'esprit,
c'est quelque chose de complètement différent du corps. Et donc, comment voulez-vous faire le lien? Bon, toutes ces idées sont complètement dépassées maintenant. En réalité, on a des signatures de la conscience qui sont assez efficaces. On est capable de voir d'abord qu'il y a encore une circulation de l'information dans le cerveau. Dans la théorie de la conscience que je défends et qui a beaucoup d'arguments expérimentaux maintenant depuis 20 ans, la théorie de l'espace de travail global, l'idée c'est que à un très haut niveau dans notre cerveau, il y a des réseaux qui échangent l'information et que être conscient d'une information, c'est être capable de la propager à l'ensemble de notre cerveau.
Donc si on voit ce mouvement-là, enfin ces échanges à l'intérieur du cerveau, ça veut dire qu'il y a une conscience.
Oui, je montre d'ailleurs cette image qui est un peu analogique parce qu'on voit une espèce d'aura autour de la tête des gens. En réalité, c'est nous qui avons calculé la propagation d'informations à longue distance à travers différentes régions du cerveau. Et plus il y a propagation d'informations à longue distance, plus il y a une probabilité que la personne soit consciente. À tel point qu'on arrive maintenant donc à faire passer des IRM ou simplement des EEG, des électroencéphalogrammes, et à avoir d'assez bons marqueurs de la conscience et aussi de la probabilité de récupérer la conscience. Peut-être que la personne n'est pas encore consciente maintenant, mais dans 3 mois, le sera-t-elle. C'est évidemment...
Et ça, on peut aujourd'hui, ça commence à le prévoir. Donc la conscience, c'est plus cette espèce d'ultime frontière, parce qu'en même temps, on se dit ce qui est complètement fou. Vous observez le cerveau avec votre cerveau. Hein. Enfin, tout ça est quand même complètement fou. Et la conscience, pareil, on est et dedans et dehors. Enfin, on est sujet et objet de ce qu'on étudie.
Oui, alors on a effectivement pensé longtemps que ça posait un problème majeur, mais en réalité, on disait au départ, nous avons tous plus ou moins le même cerveau, nous avons tous des états subjectifs, mais similaires, suffisamment similaires pour que votre conscience et ma conscience fassent appel à des architectures semblables. Et donc, on peut se servir de l'expérience commune pour détecter la conscience dans un état particulier. Oui.
Et bien, heureusement que Stanislas Dehaene, vous n'avez pas, comme Lisa Leblanc, qu'on va écouter dans un instant sur RFI, comme la chanteuse québécoise Lisa Leblanc, la rockeuse québécoise, le cerveau ramolli.
Tellement plus rien qui se passe dans ma vie.
extrait du cerveau ramolli de Lisa Leblanc sur RFI en clin d'œil musical pour notre invité. Ça vous plaît, Stanislas Dehaan?
Ah oui, c'est sympa, avec l'accent québécois qui est merveilleux.
Exactement. Je rappelle que vous êtes neuroscientifique, professeur au Collège de France, directeur du Centre Neurospin d'imagerie médicale et auteur chez Odile Jacob de ce fascinant ouvrage Face à face avec son cerveau, ouvrage illustré par résonance magnétique, entre autres. Chers amis auditeurs, autour de la question comment le cerveau peut-il s'éclairer lui-même, vous nous faites partager les formidables avancées des neurosciences grâce à cette imagerie qui rend le cerveau transparent, on l'a dit, et qui va même nous permettre de voir le cerveau penser, de voir le cerveau dynamique. Alors ce face-à-face avec notre cerveau, est-ce qu'il pourrait être mis au pluriel? C'est tout le sens de la question d'un autre fascinant chercheur, neuroéthologue, Martin Giurfa, qui explore lui le cerveau des abeilles et qui a deux questions pour vous, Stanislas Dehaan.
Comment on envisage l'évolution d'une science, comment dire, d'une neuroscience sociale? C'est-à-dire, ce qui est très important, c'est que nous sommes des individus sociaux. Et qu'est-ce qui se passe quand deux cerveaux s'engagent dans une communication réciproque? Comment on étudie les neurosciences de la socialité, par exemple? Ça serait une question intéressante à poser. Et il y a une question qui est absolument une question de futur. Et c'est un enjeu pour les neurosciences. Vous savez, on est en train de rentrer de plus en plus dans des mondes virtuels. Donc, c'est-à-dire qu'on passe la journée, et des adolescents, et pas simplement des adolescents, des adultes, sont devenus accros à leur portable, c'est leur source de socialisation avec le monde, donc les réseaux sociaux, etc. Quels sont les processus cognitifs qui sont engagés dans un individu qui vit dans un monde virtuel pratiquement à 100%? Est-ce que ça, les réseaux de socialisation qu'il engage dans la virtualité sont les mêmes que dans sa quotidiennité avec des êtres réels? Comment conçoit-on, donc, par exemple, une didactique de l'apprentissage, pensons aux écoles, à partir du constat de cette intromission du monde virtuel dans notre cerveau? C'est-à-dire, le monde virtuel est une réalité, on est dedans. Comment notre cerveau s'adapte à gérer des réalités ou des non-réalités dans ce monde virtuel? C'est une question dans laquelle je pense que les neurosciences sont extrêmement importantes.
Stanislas Dehaan, que pouvez-vous répondre à Martin Giurfa, d'autant que je rappelle que vous êtes aussi président du Conseil scientifique de l'Éducation nationale?
Alors, il y a deux questions en même temps. La première, c'est deux grandes questions. La première, celle du cerveau social, il est très étudié. Il y a effectivement des régions de notre cerveau qui s'intéressent aux autres, qui codent spécifiquement les pensées des autres. Donc, nous représentons dans notre cerveau le cerveau des autres. Et il y a une sorte de poupée russe.
Et on peut mettre quoi, deux cerveaux en même temps dans un IRM, ou il suffit d'en mettre un et qui pense à quelqu'un d'autre?
Hein. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait. On peut avoir un dialogue avec une personne qui est en dehors de l'IRM et une qui est dans l'IRM. On peut aussi être dans une situation sociale. Par exemple, deux personnes qui regardent le même film. Ah. Je montre cette image dans le livre. Lorsqu'on est alors plus face à face avec son cerveau, mais face à face avec un film, eh bien, on se synchronise tous. Et donc, on fait société quelque part parce que nos cerveaux sont synchronisés. Et un bon film, c'est celui qui synchronise largement le cerveau. Un bon Hitchcock synchronise justement ces régions de la conscience, du cortex préfrontal, du cortex pariétal, parce qu'on est complètement absorbé, on n'est plus conscient du monde extérieur.
Et donc on est de cerveau à cerveau et complètement connecté.
Voilà. Et alors ça nous amène naturellement à la deuxième question, le monde virtuel. Alors c'est pas nouveau quand même, cet affolement sur les téléphones portables. Moi je pense qu'au temps de Gutenberg, on aurait pu dire mais quoi, il commence à se plonger dans les bouquins et tout. Bon, c'est en fait très ancien cette idée que nous plongeons dans des mondes virtuels.
Excusez-moi, mais je vous interromps parce qu'on a une question d'un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux à Kinshasa, c'est Bunkese Amissi qui dit qu'il adore lire et que les gens lui disent que son cerveau va exploser. Non, il ne va pas exploser.
son cerveau ne va pas exploser.
Il peut lire autant qu'il veut.
Mais ah oui, il peut y aller. Même, il fait du bien à son cerveau parce que justement, il développe des réseaux, pas seulement de la mécanique de la lecture, mais en fait du fond, bien entendu, de la compréhension du langage. Ce sont les mêmes réseaux qui vont servir ensuite à comprendre le langage parlé et à comprendre le monde extérieur, par exemple par des biais de fil, mais aussi à produire le langage. Il y a un côté abstrait qui est commun à toutes ces modalités.
Et donc, vous dites, ce sont un peu des mêmes modalités, même dans les réalités virtuelles dans lesquelles on peut être complètement immergé. Finalement, pour notre cerveau, c'est pas...
Mais bien sûr, en réalité, notre cerveau s'en sert pour recueillir des informations. Et peu importe, finalement, que ce soit réel ou virtuel. Donc, je crois que nous allons, bien sûr, développer ces mondes virtuels. Après tout, nous passons nos journées face à des écrans déjà pour notre travail et pour notre distraction.
Bien sûr.
Mais ça ne change pas profondément l'architecture de notre cerveau. Au contraire, ce sont ces modalités qui s'adaptent aux contraintes de notre cerveau, vous voyez, dans une très large mesure. Donc le cerveau fait un petit peu du chemin, mais la page ou l'écran font, je dirais, 90% du chemin en délivrant des informations qui sont absorbables par notre cerveau. C'est pour ça qu'on parle de monde virtuel, ça ressemble au monde réel. Et alors l'étape suivante...
Ce qu'on crée, c'est ce qu'on est capable de créer avec notre cerveau, d'ailleurs. Et vous disiez l'étape suivante...
Alors l'étape suivante, ce sera peut-être d'aller stimuler plus directement encore le cerveau. Là, on stimule la rétine, qui est un morceau du cerveau, d'ailleurs. Neurones, les yeux. Mais je montre dans le livre des images alors, très révolutionnaires quelque part, où on arrive à stimuler directement le cortex. Et il n'y a pas de raison, effectivement, si on comprend le code, qu'on ne puisse pas peindre un code neuronal directement sur les neurones du cortex et par ce biais-là transmettre une idée. Alors ça a l'air futuriste et dangereux, mais pour les patients comme Jean-Dominique Bobby tout à l'heure, ce sera peut-être le jour et la nuit, vous voyez, arriver
de
à
pouvoir transmettre directement
communiquer,
ce qu'on pense.
Récupérer une communication. Et ça commence, on commence à avoir par exemple un décodage de la parole en regardant les assemblées de neurones qui sont activées dans les aires qui commandent la parole.
Complètement faux, on aura besoin de la radio, on pourra directement de cerveau à cerveau savoir ce que vous pensez, ce que vous dites.
Pas forcément savoir, mais au moins accepter des informations, transmettre des informations.
Transmettre des informations.
Si la personne le veut bien. Il faut dire une chose, c'est que toutes ces techniques, elles ne sont pas disponibles si la personne ne le veut pas. Mais dans le cas des patients, c'est évidemment dans leur intérêt de pouvoir bénéficier d'un supplément, en quelque sorte, de technologie.
Absolument. Merci infiniment, Stanislas Dehaene. On pourrait passer des heures à parler de notre cerveau, à regarder cet ouvrage magnifique face à face avec son cerveau bourré d'illustrations géniales, paru aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, Stanislas Dehaene. Bah, vous revenez quand vous voulez. On n'en a pas fini. Hein. On ne fait que commencer à comprendre.
Je ne pense pas qu'on en ait fini tout de suite avec le cerveau. Il y a encore tellement de choses à comprendre sur ce qui fait notre personne, ce qui fait nos talents aussi, le langage, les mathématiques. J'aborde ces sujets, mais je ne peux le faire que trop superficiellement, parce qu'on ne connaît pas encore tout, loin de là.
Bah vous reviendrez nous faire partager
avec
un peu
plaisir.
Tout ça. Merci beaucoup, Stanislas Dehaene. Autour de la question en rediffusion estivale et cérébrale, cette semaine avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Rendez-vous demain pour nous mettre dans la tête et dans le fabuleux cerveau décentralisé d'un poulpe, oui d'un poulpe, d'un calmar, avec l'éthologue Ludovic Diquel, une expérience fascinante à ne pas rater. Chers amis auditrices et auditeurs, vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à notre podcast, disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pura Radio. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations dans une petite minute sur la Radio Mondiale.